Isabelle Fernandez, bonjour.
Bonjour.
Alors, quelle est la mission d'UbiFrance ?
La mission d'UbiFrance, qui est une agence publique visant à internationaliser les sociétés françaises, est un dispositif public d'appui aux sociétés pour, d'une part, venir exploiter les marchés extérieurs, et nous aidons les entreprises françaises à venir exporter et s'implanter en Chine.
Alors, comment vous travaillez avec la mission économique et la Chambre de commerce ?
Alors, nous sommes la mission économique UbiFrance. La dévolution, c'est-à-dire la séparation des services économiques et des missions économiques UbiFrance a été faite pour la Chine le 1er septembre 2009, au moment où j'ai pris mes fonctions à la direction d'UbiFrance. Le service économique est concentré sur la diplomatie économique, sur l'information du gouvernement, sur la situation économique et financière des États dans lesquels il se trouve, et l'appui plus spécifique aux grands contrats. Nous-mêmes, nous sommes les services commerciaux de l'ambassade de France en Chine et nous aidons spécifiquement les entreprises à venir profiter des opportunités du marché chinois.
Ça veut dire que du coup, la mission économique ne fait plus le même travail ?
Auparavant, les missions économiques faisaient et de la diplomatie économique et de l'appui commercial aux entreprises. La séparation vise à ce qu'un service dédié, donc cet EPIC qui est UbiFrance, ne se focalise que sur l'appui commercial aux entreprises. Les services économiques, outre l'appui aux grands contrats, sont aussi là pour faire de la diplomatie économique, comme j'ai dit, et surtout organiser toutes les nombreuses visites ministérielles et présidentielles. À l'heure actuelle, il y a plus de 2 ministres qui viennent par mois en Chine. Donc, un appui plus politique, un appui plus commercial, comme ça, chacun son métier.
Très bien. Alors, quels sont les dispositifs qu'UbiFrance propose aux entreprises qui souhaitent s'implanter à Shanghai et plus loin en Chine ?
Alors, certaines visent dans un premier temps que l'exportation. Alors, en amont, nous sommes, nous, les têtes chercheuses des opportunités de marché. Donc, nous faisons chaque année avec l'équipe des panoramas sectoriels pour voir dans quel secteur les opportunités sont les plus grandes. Comme vous savez, la Chine est devenue un des plus grands marchés du monde pour un certain nombre de produits. Donc, nous réalisons en amont des études sectorielles spécialisées, alors qui va de l'étude de l'environnement, les grandes structures, les grandes infrastructures. Nous faisons aussi la bijouterie, nous faisons le vin. Le catalogue est disponible sur Internet de nos publications. Nous faisons aussi des études plus générales. Nous allons sortir récemment un guide « Comment s'implanter ?» Comment exporter. Donc ce sont des informations très générales dont les entreprises ont besoin en amont pour définir leur stratégie. À la suite de cela, avec UbiFrance siège et en région, il leur appartient d'identifier les entreprises qui pourraient venir sur le marché chinois et nous organisons pour elles ce qu'on appelle notre produit contact, c'est-à-dire en amont un test sur offre. Avant même que l'entreprise ne vienne, on traduit toute sa plaquette en chinois et nous allons nous-mêmes voir les interlocuteurs, distributeurs, importateurs qui pourraient intéresser. À partir du moment où nous avons fait cela, si le test sur offre est positif, nous organisons une mission de prospection individuelle qui va de environ 4 entretiens par jour sur 4 ou 5 jours. Ça, c'est l'appui individuel. Nous organisons aussi ce qu'on appelle les opérations collectives sur la Chine avec nos partenaires, j'y reviendrai. Nous avons organisé en 2010 plus de 80 opérations collectives qui vont donc de la création des pavillons France sur les salons spécialisés, mais nous organisons aussi des missions collectives de découverte d'un marché. Par exemple, dans le domaine horticole, on vient de faire récemment une mission où nous allons en plus dans plusieurs villes de Chine. Nous ne nous concentrons pas essentiellement sur les villes côtières. Et nous organisons aussi des opérations qui s'appellent vendre à un grand compte chinois. Et là, dans le domaine aéronautique, nous avons fait pour la visite de Madame Idrac une grande rencontre avec la société Comac, qui va devenir la plus grosse société aéronautique de Chine, qui va créer un avion qui s'appelle le C919, l'équivalent d'un A320. Et nous avons mené plus de 30 entreprises en collaboration avec le GIFAS, donc la Fédération professionnelle. Voilà, donc ça, ce sont les appuis contacts. Ensuite, donc, nous avons aussi un service aux entreprises qui est dédié à la communication. C'est-à-dire qu'une entreprise, si elle vient sur le marché chinois, eh bien, il faut qu'elle se fasse connaître. Et donc, nous organisons pour elle des conférences de presse ou des communiqués de presse dans la presse spécialisée. Et ça, ça marche plutôt bien. C'est un outil qui mérite d'être mieux connu. Et en tout cas, les entreprises sont très satisfaites. Et dernièrement, donc, notre dispositif de soutien à l'emploi des jeunes, qui s'appelle le VIE, qui vise à placer donc des nouvellement diplômés sur le marché chinois dans les entreprises françaises. Et en Chine, nous avons plus de 630 jeunes qui travaillent dans les sociétés françaises, dans plus de 330 entreprises, dont 44% sont des PME.
C'est quoi les critères pour obtenir un VIE ?
Le critère est d'être un diplômé récent. Et qui, en fait, les autorités chinoises, c'est une spécificité sur la Chine, nous imposent qu'ils aient 2 ans d'expérience professionnelle avant de venir sur le marché chinois. Mais c'est ouvert à tous les diplômés, donc il faut avoir une maîtrise. Et les sociétés françaises donc qui sont intéressées peuvent choisir leur candidat sur un vivier que gère Ubifrance. Et l'avantage pour les sociétés, c'est que l'État prend en charge toutes les charges sociales. Et donc le coût pour l'entreprise sur le marché chinois est d'environ 2 200 € par mois.
Alors vous avez cette année un programme d'action spécifique pour l'exposition universelle ?
Alors sur l'exposition universelle, nous avons concentré effectivement nos moyens puisque il y aura environ plus d'une quarantaine d'opérations qui ont déjà bien sûr commencé et au global nous accompagnerons plus de 500 entreprises sur les 6 mois que dure l'exposition universelle. Alors il y a toutes les opérations qui étaient déjà programmées hein, dans le domaine par exemple des infrastructures. Nous venons de monter Metro China, le salon transport et logistique. Néanmoins, nous avons aussi fait des actions plus spécifiques puisque le thème de l'exposition est Better City, Better Life. Nous avons monté, par exemple, un colloque sur l'architecture, pardon, dont le thème était la ville fluide. Et nous avons monté ça toujours avec les fédérations professionnelles, donc la fédération de l'AFEX, qui a fait venir des grands noms de l'architecture française. Et la nouveauté, c'est que nous avons invité les grands donneurs d'ordre de toute la Chine, c'est-à-dire des gens de Chongqing, de Dalian, de Canton, de Pékin, qui sont venus écouter et participer au colloque qui a duré 3 jours. Et d'après les retours que nous avons, nos homologues chinois étaient ravis de mieux connaître l'offre française, qui est déjà largement connu, puisqu'il y a des grands noms comme Charpentier, Andreu, Larep sont déjà très présents. Néanmoins, il était nécessaire de profiter de cette occasion pour mieux faire connaître ce domaine, à tel point que l'AFEX a décidé d'ouvrir un bureau de représentation autonome dès octobre. Donc ce sont des résultats positifs. Ça, c'est le domaine des infrastructures, mais je ne vais pas tous vous les citer. On a fait aussi une très belle opération dans le cadre du salon Bakery China. On a fêté pour la première fois en Chine la fête du pain et avec nos amis de Le Safre qui viennent d'inaugurer hier leurs nouveaux locaux et nouvelle usine dans le Guangxi. Nous avons fait une opération de communication avec 80 journalistes qui sont venus écouter la manière dont la panification et le pain français étaient réalisés. 80 journalistes qui ont été ravis de voir aussi le meilleur ouvrier de France présenter son savoir-faire.
Le Safre, ça nous parle pas mal dans le Nord. Alors, quels sont les besoins des entreprises françaises en Chine, mais notamment les PME ?
Alors, les PME sur le marché chinois méritent d'avoir plus d'attention que les autres, dans la mesure où le marché chinois est devenu un des marchés les plus compétitifs du monde, Hein, toutes les sociétés internationales sont là et l'émergence des concurrents chinois est une réalité que l'on voit croître depuis 10 ans. La manière dont la PME doit réaliser son business plan doit prendre en compte le fait que le marché chinois est un marché cher, hein, puisque la moindre ouverture d'un bureau de représentation coûte de l'argent. Elle doit savoir si elle a une surface financière suffisante pour investir sur le marché chinois. Donc il y a différentes sortes d'appuis, bien sûr, qui sont à la disposition des PME. Néanmoins, donc, solidité financière et surtout aussi capacité de développement de l'export en termes de ressources humaines, puisque le marché chinois nécessite effectivement une présence sur place assez conséquente sur le long terme. Donc une fois que l'entreprise a bien défini ses capacités de développement, nous-mêmes, nous les aidons à rencontrer les bons interlocuteurs, hein, que ce soit les importateurs, les distributeurs, peut-être aussi dans la distribution, les grands magasins qui sont capables de les accueillir, ou même des partenariats qui peuvent se nouer dans le domaine industriel. Le partenariat n'est pas un passage obligé, puisque dorénavant, les WFOE, ce qu'on appelle les Wholly Owned Foreign Enterprise, donc les sociétés à 100%, sont aussi possibles sur la Chine. Notre rôle est de leur indiquer la manière dont il faut aborder le marché chinois. Bien évidemment, avoir, comme je le disais, une documentation en chinois, la manière dont il faut apprendre à négocier, la manière dont il faut comprendre la culture. Et donc là, nous avons quelques informations à leur donner. Ensuite, une fois que l'entreprise a décidé de venir, qu'elle a eu à disposition tous les services qu'offre UbiFrance. Sur place, il y a un certain nombre de partenaires que sont justement la Chambre de commerce et d'industrie française en Chine, que sont les conseillers du commerce extérieur, que sont tous les organismes, les consultants regroupés dans l'association de l'OSCI. Et donc le leitmotiv de l'équipe de France dont nous sommes le pivot, c'est de dire accepter le partenariat. Vous avez ici un nombre de services, de consultants français, d'avocats, de cabinets d'audit, de managers chevronnés qui sont là pour vous accueillir et vous permettre de vous inscrire dans une démarche de long terme. Donc, ce n'est pas une spécificité française d'accepter de payer un service, mais sur la Chine, c'est un gain de temps et donc un gain d'argent.
La Chine et la France vont bientôt créer un fonds de 500 millions d'euros pour faciliter l'implantation des PME françaises en Chine, et réciproquement.
Alors, ce fonds qui a été effectivement créé par la Caisse des dépôts et de consignation, le président a accompagné le président de la République là, dernièrement, fin avril, vise effectivement à promouvoir les PME françaises en Chine et chinoises en France avec des partenariats financiers croisés. Hein. Donc les modalités de ce fonds ne nous sont pas encore connues, mais nous sommes en relation avec eux pour, dès que les modalités sont connues, nous nous inscrivons et nous nous servons de cet outil pour asseoir la capacité financière à des sociétés PME françaises à réussir en Chine.
Pas facile d'imaginer une PME chinoise s'implantant à Issoudun.
Oui, néanmoins, quand on parle de PME, il y a vraiment une différence de taille. Nos PME sont plutôt des petites sociétés. Les PME chinoises ont déjà une grosseur, je dirais, en nombre d'effectifs et même peut-être en capacité de développement financier. Donc, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Ce que je voudrais ajouter, c'est que les toutes petites PME françaises sur la Chine auront des difficultés. Nous, notre cible est plutôt maintenant ce qu'on appelle les ETI, hein, les entreprises de taille intermédiaire qui ont déjà prouvé à l'export qu'elles ont des capacités de développement et qui sont déjà un peu aguerries au commerce international. Je pense que pour une société de venir pour une première fois tenter l'exportation ou l'implantation sur un marché difficile comme cela est peut-être risqué. Donc notre rôle est de montrer au sein du Bifrance au sens large que peut-être un marché de proximité, dans un premier temps, serait plus utile.
Oui, un grand rôle de conseil. Est-ce que c'est le bon moment pour investir en Chine ?
Tous les experts, et donc il y a une récente étude d'avant-hier de la Chambre européenne de commerce, montrent que toutes les sociétés qui se sont déjà implantées, donc c'est une étude qui porte sur 500 sociétés européennes, ils ont tous confiance dans l'évolution du marché et les capacités de développement et de croissance de ce marché. Donc je pense que dans une stratégie d'internationalisation des sociétés, maintenant on ne peut plus faire abstraction de la problématique chinoise. Puisque la capacité de développement des sociétés chinoises à l'exportation sur les marchés mondiaux est une réalité. Et donc, quand bien même on ne vise pas le marché chinois, ce sont les Chinois qui nous concurrenceront sur nos marchés tiers. Donc je pense que la question se pose de manière obligatoire. Quitte à ce que, justement, une fois qu'on s'est bien posé la question, on se dit que ce n'est pas la meilleure stratégie et que le marché chinois, pour l'instant, n'est pas une priorité. Néanmoins, là où il y a quelques inquiétudes de la part des investisseurs, c'est que le marché chinois, si la Chine a considéré dans un temps, il y a quelques temps, et nous l'avons vu, a été l'usine du monde, c'est-à-dire à imposer aux sociétés étrangères de localiser les productions pour profiter de la ressource à bas coût. On voit bien que le modèle économique de la Chine est en train d'évoluer et que les investissements liés typiquement les investissements de main d'œuvre pour faire du processing trade, ce n'est plus une priorité chinoise. Donc l'élévation de la capacité de production chinoise fait que les investisseurs étrangers ne sont plus incités à investir dans un certain nombre de domaines. On voit bien que les avantages fiscaux pour les sociétés étrangères sont progressivement supprimés. Et ce que souhaite la Chine, c'est maintenant gagner le pari de l'innovation et sa volonté est d'encourager les investissements qui sont générateur de recherche, développement et d'innovation. Donc ça, c'est une vraie mutation. Donc certaines sociétés, bien sûr, l'ont très bien prise en compte. Et ce qu'il faut voir, c'est que les sociétés en Chine ont une telle compétition locale qu'il faut absolument produire des produits dans une rapidité exemplaire et surtout un produit qui correspond au marché chinois. Et sans être sur le marché, avec des antennes partout pour comprendre les nouveaux besoins du consommateur et des délais de livraison très rapides, on peut être très rapidement exclu du marché. Donc ça, ce que je dis aux entreprises, c'est il faut bien sûr anticiper, il faut bien sûr être très réactif par rapport aux volontés du marché. Et ça, si on est à 8000 km, c'est difficile.
Quels sont les secteurs porteurs pour les entreprises françaises ?
Alors, on a bien évidemment, dans le cadre du dialogue stratégique qu'avait engagé M. Chirac dès 1997, des secteurs porteurs sur lesquels on a une excellence et dans lequel pour lequel le dialogue franco-chinois est toujours maintenu. Ces domaines sont le nucléaire, l'aéronautique, les transports et l'environnement. On a rajouté récemment l'agroalimentaire qui mériterait effectivement, enfin une de nos actions prioritaires, Mme Hydra qui était là en avril, de développer ce secteur de la table à l'étable avec toute la filière qui est liée. Donc dans le secteur nucléaire, on voit bien qu'Areva et EDF ont pris des parts de marché importantes, hein, que ce soit depuis l'origine d'Ayabé et Lingao, maintenant les EPR donc dans le sud de la Chine. Nous, en tout cas, en tant que UbiFrance, que nous essayons de développer, c'est justement cette logique filière. C'est si les grands groupes arrivent à gagner des grands contrats et à investir sur le marché, elles auront besoin d'un réseau de sous-traitants qu'elles connaissent, avec des produits fiables, qui ne souffrent aucun défaut en termes de qualité. Et donc, récemment, nous avons fait un grand colloque dans le Guangdong, avec là aussi le PFCE et le GIEN, pour amener une trentaine de sociétés de plus petite taille dans le domaine nucléaire. Dans le domaine aéronautique, nous avons fait la même chose. Bon, bien sûr, Airbus est présent. Ce sont les avions qui, en fait, font notre balance commerciale en grande majorité. Néanmoins, pour participer à ce grand programme aéronautique chinois, si Safran a gagné la motorisation du futur avion avec un contrat signé par la visite de M. Fillon de 3,5 milliards d'euros, ils sont très demandeurs à ce que un certain nombre de PME chevronnées viennent aussi participer à ce programme, puisque la demande chinoise en termes d'avions, à horizon 15 ans, c'est plus de 2800 appareils.
Comment on peut expliquer la bonne santé économique de la Chine dans un monde en crise et cette Chine qui nous annonce une croissance de 10% en 2010 ?
L'idée, c'est de bien comprendre d'où la Chine part. Hein. L'ouverture de la Chine ne date que de 1978. Et à l'époque, le PIB par habitant était d'environ de... Même pas... C'était 600 kwai par habitant. Avec la politique d'ouverture et de libéralisation de l'économie progressive, la Chine a réussi à... Et ça, c'est un des grands succès chinois, à faire passer au-dessus du seuil de pauvreté plus de 200 millions de ses compatriotes. Ça, c'est un très beau succès. L'ouverture a permis effectivement de rendre son économie plus compétitive. Elle a également bien ouvert son marché aux investisseurs étrangers pour monter en gamme son industrie, hein, puisque la Chine avait loupé la révolution industrielle du 19e siècle. Cet effet de rattrapage maintenant est pratiquement acquis. Donc l'augmentation du niveau de vie chinois fait qu'il y a une classe de consommateurs qui s'enrichit progressivement. Cette tendance n'est pas près de s'éteindre, puisque c'est une réalité. La Chine, avec ses 1,4 milliard d'habitants, représente un cinquième ou un quart de la population mondiale. Donc une Chine qui s'enrichit, des besoins de consommation de plus en plus importants, des besoins en matériel industriel de plus en plus conséquents, des développements d'infrastructures. Le gouvernement chinois a lancé même un plan de relance pour contrecarrer les effets de la crise en 2009 de plus de 4 000 milliards de renminbi. Donc vous voyez, tout ça fait que la croissance chinoise s'appuie donc sur le développement de l'investissement public, mais aussi en partie sur l'exportation, mais en fait pour moins du quart de sa croissance. Et l'objectif majeur des autorités chinoises maintenant est de développer la consommation intérieure. Donc nous sommes à contre-courant, nous avons eu nos 30 glorieuses. Pour la Chine, les 30 glorieuses sont encore devant.
Bon, donc on ne peut plus qualifier la Chine de pays en développement.
Alors c'est là toute l'ambiguïté chinoise. Il y a encore une grande partie de la population chinoise, et notamment les ruraux, qui représentent encore, je dirais, 700 millions, donc pratiquement la moitié de la population chinoise, dont le revenu, en comparaison avec l'augmentation du revenu des citadins, n'a pas évolué de manière équivalente. Donc c'est pour ça qu'il y avait encore cette grande réserve de main-d'œuvre importante. L'enjeu prioritaire de la Chine, d'après les études de la Banque mondiale, c'est que chaque année, la Chine, devra, à partir de 2015, devra accueillir 11 millions de citadins supplémentaires, c'est-à-dire l'équivalent de la région Île-de-France. Donc vous voyez l'enjeu en termes de développement d'infrastructures, en développement d'éducation, en système de santé. C'est absolument considérable. Donc c'est pour ça que je reviens au thème de l'exposition universelle « Better City, Better Life ». L'enjeu pour la Chine est de réussir ce développement urbain et d'aller chercher toutes les meilleures technologies et meilleurs savoir-faire dans le monde entier pour réussir ce défi qui est unique au monde. Hein. Et donc dans ce cadre, nous avons une grande expertise puisque nous avons les deux premières sociétés mondiales dans le domaine de l'eau. Nous avons, en termes d'architecture, je l'ai dit, de très grandes et des petites sociétés qui se défendent très bien. Nous avons également, dans le domaine de l'efficacité énergétique, de très belles sociétés, dans le domaine du contrôle de l'air, enfin, toute cette industrie, en fait, liée à l'environnement et liée à l'urbanisme, est quelque chose que nous mettons en avant, à tel point que nous organiserons dans le courant du second semestre avec la commission d'État au plan un séminaire sur l'efficacité énergétique puisque nos amis chinois savent que nous avons vraiment beaucoup de choses à leur apporter et nous placerons nos sociétés sur ce grand marché.
Donc on est bien placé pour construire la Chine de demain. Quel rôle joue aujourd'hui la Chine dans la Banque mondiale ?
Pour l'instant, on l'a vu, la Chine vient d'accroître ses parts dans le système de la Banque mondiale. Je crois qu'on est au début d'un processus. C'est vrai que la Chine, après la politique d'ouverture, a pris justement 30 ans pour prendre conscience et en tout cas assumer son rôle de deuxième puissance économique mondiale, hein, puisque en 2010, elle va devancer le Japon en termes de PIB. Donc cette prise de conscience de nos amis chinois, de la place qu'elle doit occuper, devait être, concrétisée dans les faits. Donc augmentation de la part de la Chine au sein de la Banque mondiale. Je pense que les choses se feront à terme au sein du FMI. Et on voit bien que dans la gouvernance mondiale, dorénavant, et au sein du G20, la Chine prend une place qui est en lien avec sa puissance et la place qu'elle tient dans le domaine économique et dans le commerce mondial.
Justement, à propos du FMI, le conseiller spécial de Dominique Strauss-Kahn, c'est bien le vice-président de la Banque centrale chinoise, Zhu Min.
Oui, monsieur Zhu Min, oui.
Voilà. Et dont on dit qu'il pourrait diriger le FMI avant 2012. Ça, c'est quand même une sacrée nouvelle pour nous.
Écoutez, moi, je n'ai pas de confirmation sur ce sujet. Je crois que nous avions rencontré M. Zhu Min justement en 2007. C'est quelqu'un d'excellent. Et je pense qu'il est vraiment nécessaire dans les organismes internationaux d'avoir un conseiller qui soit le spécialiste de l'économie chinoise et qui nous aide à comprendre la stratégie chinoise dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine financier.
C'est aussi une manière d'acter le déplacement de l'axe du monde.
Je pense que vous avez raison. Nous avons eu du mal, nous, en Occident, à comprendre la place qu'allait prendre la Chine au XXIe siècle. Certains l'avaient bien prédit, hein, que le XXIe siècle serait asiatique, avec la montée aussi en puissance de l'Inde, encore largement derrière, mais qui prendra aussi sa place. C'est pour ça que notre langage n'est pas de dire arrêtons de nier la puissance chinoise. La Chine fait peur, certes. La Chine prend sa puissance, certes. Elle est en train, en fait, de reprendre le niveau qu'elle avait dans l'économie mondiale au XVIe siècle. Elle reprend sa place. Donc, au lieu de lutter contre cette présence, et il vaut mieux accompagner cette puissance, se placer sur les marchés sur lesquels on est encore attendu. Et ne nous leurrons pas, nous sommes dans une compétition économique féroce, mais ce n'est pas en se mettant des œillères et en niant la réalité que nous allons réussir. C'est plutôt essayer de créer le maximum de coopération, se rendre indispensable sur le marché chinois. Je pense que dans certains secteurs, nous sommes très attendus. Il nous appartient dans le combat, en fait, qui est maintenant lié à l'innovation, de gagner le terrain. Hein, c'est-à-dire, la Chine investit en recherche-développement plus que 2% de son PIB. C'est à nous aussi, au niveau européen, je pense, parce que c'est là où on sera le plus fort, de maintenir aussi notre niveau de recherche et développement pour avoir justement sur le marché mondial cette avancée technologique. Puisque je parlais de l'économie verte, ça va être un des principaux enjeux du XXIe siècle.
Alors pour gagner le terrain, est-ce qu'un bon atout pour l'Europe serait l'éventuelle réévaluation du yuan dont on parle depuis un certain temps ?
Je pense qu'on n'est plus dans l'éventualité, puisque là les autorités chinoises ont clairement défini et annoncé que c'était la fin du PEG strict, et donc d'un taux de change lié au dollar. Ils vont le laisser un petit peu glisser, donc ça va être très progressif. C'est quelque chose que la communauté internationale attendait. Donc c'est un bon signe qu'ont donné les Chinois donc avant le G20 du Canada. Pour nous-mêmes, dans un premier temps, le marché chinois sera effectivement un tout petit peu moins cher, puisque les prix des produits chinois en renminbi vont un petit peu s'accroître. Je ne crois pas à une inflation féroce. L'enjeu est pour les monnaies internationales que le renminbi prenne un jour sa place de monnaie financière au même titre que la place qu'a la Chine sur le plan économique. Tout ça va être progressif et ça prendra du temps. L'internationalisation du renminbi, pour l'instant, cette monnaie reste encore non convertible. Il y a des ouvertures progressives avec des accords de swap avec différents États, notamment avec les pays de l'ASEAN. Nos amis chinois vont faire les choses progressivement, de manière pragmatique, et en tout ça, toujours considérer que l'enjeu pour eux, c'est bien la préservation de l'intérêt national.
Mais en tout cas, tout ça est sur les rails. Isabelle Fernandez, merci.